那是打高尔夫了。
Au revoir les enfants. À bientôt.
Au revoir mon père.
Au revoir mon père.
Au revoir mon père.
I love you, but you don't know what you're talking about.
I love you too.
Elle vous a trahi et vous n'avez jamais compris pourquoi.
Comment savez-vous toutes ces choses ?
Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission de cinéma sur Transistor. Cette semaine, notre toile est pleine d'une magie en tout opposée à celle de Noël, n'en déplaise à la saison, avec Personal Shopper d'Olivier Assayas. Et c'est Alice qui prête aujourd'hui ses yeux et sa voix à l'exercice. Bonjour à toi.
Bonjour Rémi.
Alors la Personal Shopper, c'est Maureen, jeune femme américaine vivant à Paris, interprétée par Kristen Stewart. Elle est employée par une célébrité pour faire à sa place ses courses de vêtements, transportant sur son scooter les robes et les parures que s'offre sa richissime employeuse. Et ce faisant, Maureen attend Mossad. Elle attend un signe que lui enverrait son frère jumeau, mort d'une malformation cardiaque qu'il partage, conformément à un serment qu'il s'était fait. Et c'est dans cette attente angoissante, morbide et hallucinée que Maureen commence à recevoir les messages d'un inconnu sur son téléphone, un inconnu qui semble la traquer et la menacer sourdement. Alors je ne dévoile peut-être pas tout de suite tous les ressorts de l'intrigue et te laisse la parole Alice pour connaître ton avis sur ce film.
Alors mon avis sur ce film, j'ai trouvé ça extrêmement grotesque et raté. Rien ne laissait penser que ça allait être aussi plat. Le début laisse présager plutôt quelque chose de bien, d'un peu subtil sur les spectres, les ectoplasmes. Et surtout, on a l'impression que lentement s'amène une intrigue qui en fait n'arrive jamais. Et surtout, on a une multiplication de fausses pistes, mais c'est même pas, on se sent même pas trompé, on se sent juste... de plus en plus ennuyé par l'absence de toute intrigue. Voilà.
D'accord. Alors, finalement, je te rejoins quand même un petit peu. Il faut bien dire que ce film n'est vraiment loin d'être une réussite. Quand on connaît le talent d'Assayas, c'est assez triste de voir que finalement, cette entreprise qui était quelque chose d'assez titanesque, faire un film centré sur une actrice avec introduire des notions qui viennent directement du film de genre, les fantômes, la place de la mort, le dialogue au-delà de la mort, quelque chose d'extrêmement ambitieux et manifestement, son ambition l'a un petit peu dépassée et on se retrouve avec un objet qui est plein d'inventions qui sont pas forcément mauvaises, d'intentions qui sont sans doute très bonnes, mais qui finalement est ratée.
Mais c'est ça, ce qui manque juste c'est un cadre réussi et puis de temps en temps le grotesque est assumé, mais la plupart du temps on essaye quand même de nous faire croire à toutes ces hallucinations, ces apparitions, ces dialogues avec l'au-delà. Et moi, le seul moment que j'ai aimé, c'est quand on a une sorte d'extrait d'un téléfilm des années 60 qui reconstitue une scène de spiritisme avec Benjamin Biolay en Victor Hugo. Et là, le grotesque est complètement assumé. Et là, j'ai trouvé ça très réussi. Mais rien n'est rebondi dessus. Enfin, la seule chose qu'on nous montre de ça, c'est...
En fait, on rebondit dessus sérieusement.
C'est ça, exactement.
Et du coup, ce grotesque assumé revient à une espèce d'autoparodie dont on se demande quel est son statut dans le film. Et en fait, c'est une dynamique assez destructrice qui est à l'œuvre dans pas mal d'autres moments du film. Assayas reprend un certain nombre du code du film de genre. C'est fantôme dans la maison hantée, et puis cet échange de SMS très très oppressant. Mais il n'assume jamais de faire un film de genre. Il n'assume jamais ce second degré nécessaire si on veut réussir ce genre de film, et essaye toujours de redevenir très très sérieux. Et qu'il essaye de donner un sens un peu métaphysique à son film, alors que finalement, si le film était réussi, peut-être que le sens s'en serait dégagé tout seul, sans qu'on ait besoin de tendre ses perches en permanence au spectateur, perches qu'il n'a pas vraiment envie d'attraper.
Oui, tout à fait. Et puis, j'ai l'impression que ce qui manque comme thématique du film de genre, enfin, qui n'arrive pas à nous faire ressentir, c'est l'angoisse. Et il a plutôt choisi de traiter la dépression. Et ce qui, en fait, ne marche pas du tout parce qu'on n'en peut plus de ce personnage complètement amorphe qui juste va de Chanel en Cartier, en Londres, Paris, d'Eurostar en voiture. Enfin, juste qui se balade sans aucun sens. Et on voit bien qu'elle est déprimée, mais au-delà de ça, on n'a aucune empathie pour elle.
Bah après, je trouve que précisément, les scènes entre guillemets d'angoisse sont celles où le talent d'Assayas se montre quand même à la hauteur. Les scènes dans la maison où la scène d'angoisse totale dans l'appartement sont des moments où il y a vraiment un vrai talent de mise en scène et où, alors bon, c'est une scène qui est censée être angoissante, donc je peux pas forcément dire qu'on y prend plaisir, mais il y a quand même quelque chose de réussi, je trouve, dans ces scènes très très belles avec, oui, des cadrages millimétrés, un montage extrêmement réussi, mais qui sont très réussis en tant que tels, mais qui dans l'ensemble font un peu flop.
Oui, exactement. Mais c'est un très beau film. Et oui, il y a quelques scènes d'angoisse et qui sont les plus réussies, les plus belles et les mieux interprétées aussi, je trouve. Mais au-delà de ça, vraiment, ce qu'on nous montre du personnage, c'est, à part ces moments d'angoisse où on espère que peut-être la scène va déboucher sur une vraie histoire, une vraie surprise du scénario, on retombe dans l'apathie et dans juste l'observation quotidienne sans intérêt.
Oui, après, là était peut-être aussi l'intention du film,
oui, je pense.
D'observer presque jusqu'à l'onanisme le corps et la figure de Kristen Stewart et de l'entourer de caméras, de la suivre instant après instant. Mais il y a quelque chose d'un petit peu vain là-dedans et on se demande finalement quelle est notre position de spectateur face à cette démarche.
Surtout ce qui marchait en plus dans Sils Maria, qui est donc son précédent film et qui pour le coup,
vraiment
je trouve, était voilà, splendide. C'était plutôt le duo d'actrices Juliette Binoche et Kristen Stewart qui rendait le film angoissant presque malgré lui en les montrant comme deux femmes alliées et en même temps deux femmes très toxiques l'une pour l'autre. Et là, rien n'était forcé. Et même ce qui était très dur, elle répète des scènes d'un film, des scènes de théâtre, donc elle joue du jeu. Et tout marchait juste par le dialogue des deux corps, des deux actrices, de leurs répliques.
Oui, et puis le spectateur se surprenait à avoir des doutes, à imaginer des choses, à être pris à partie par le film, alors que là, finalement, moi, j'étais juste de marbre devant le film et je me sentais pas comme faisant partie de la démarche du réalisateur, tout simplement. Et y a cette sensation de voir passer les choses et de pas forcément comprendre quel intérêt pour nous, finalement, à voir ces images, d'autant plus que, alors, la comparaison avec Sils Maria tient aussi sur le... Mais il y avait un aspect très très poétique à Sils Maria avec ses décors. Là, vraiment, on est plongé dans une très très grande froideur qui se ressent alors sur le visage de Kristen Stewart, mais qui se ressent aussi dans ce monde qui est dépeint, un monde où déjà tout est terne et puis on a ces sons de téléphone qui martèlent la salle à chaque fois que son doigt appuie sur une touche, les alarmes à l'entrée des appartements, tout ça. Enfin, on a un monde très très aseptisé et je sais pas trop à quel point Assayas tente d'en faire la critique, mais par un film qui finalement en est le reflet.
Mais je trouve que c'est justement assez dur. Enfin, moi, j'ai pas bien compris ce qu'il voulait montrer en ayant mis autant de scènes dans des boutiques de luxe, à nous montrer des très beaux vêtements, des bijoux incroyables, etc. Parce qu'en même temps, on sent qu'il a juste envie de montrer des beaux objets, de montrer la fascination de justement cette personnage shopper qui n'a qu'une envie, c'est d'essayer toutes ces belles robes qu'elle achète pour une autre. Et en même temps, c'est une telle pauvreté dramatique, ces scènes. Elle va acheter des choses, elle a envie de les essayer, on lui dit que c'est pas possible, elle repart, elle les dépose. Et je ne sais pas si il a décidé lui-même d'en dire quelque chose. C'est peut-être le seul espace d'ambiguïté dans le film.
Maintenant, là aussi, les rapports de désir avec ces robes sont complètement évanescents. Finalement, n'aboutissent à rien. Il y a des scènes assez incompréhensibles aussi. Un moment où elle s'enfuit avec des bijoux et on ne sait pas trop ce qui va se passer. Et
finalement, tout ça, il se passe rien.
Oui, voilà, et tout ça pour aboutir surtout sur un final qui semble détruire un petit peu belle entreprise qui avait l'air amorcée par une seconde partie du film.
Mmh. Et la scène de conclusion, d'ailleurs, m'a semblé complètement rajoutée. C'est un bonus et en même temps, c'est censé révéler une sorte de dernier sursaut du scénario.
Oui, ça, et puis la dernière image où l'on remet en perspective toutes les hallucinations en se demandant si elles ne sont pas internes au personnage, alors soit est une tentative maladroite pour recentrer une fois de plus sur Kristen Stewart, sur son intériorité, sur son jeu, ou bien est une tentative encore plus maladroite de remettre un des clichés du film de genre qui serait cette espèce de retour distant sur soi-même et de faire rentrer toute l'histoire du film dans le cadre bien sage d'un rêve ou d'une hallucination.
Oui, moi j'ai juste l'impression qu'on a une dernière scène, encore une fois fantastique, pour que le spectateur se dise « Ah oui, mais quand même, on sait pas tout, on peut pas tout comprendre. » Et ça m'a en fait énormément énervée parce que c'était déjà tellement grotesque que c'était juste l'apothéose du faux mysticisme.
D'accord, eh bien, il me reste la lourde tâche de vous dire d'aller le voir quand même, chers auditeurs, si jamais vous êtes intrigués par l'analyse un petit peu acerbe que nous venons d'en faire avec Alice.
Ou bien d'aller voir Sils Maria.
Ou bien d'aller voir Sils Maria, parce que là, on sera d'accord pour vous le conseiller sans condition. Voilà, et pour terminer, comme d'habitude, on passe à quelques suggestions de sorties cinéma pour vous cette semaine, et je commence inévitablement avec Patterson de Jim Jarmusch. Alors, Patterson, Adam Driver, chauffeur de bus d'une trentaine d'années, vit à Patterson dans le New Jersey, où il mène une vie réglée aux côtés de Laura, Goldshift et Farhani, qui multiplie projets et expériences avec enthousiasme, et de Marvin, son bulldog anglais. Chaque jour, Patterson écrit des poèmes sur un carnet secret qui ne le quitte pas. Le nouveau film de Jim Jarmusch fait l'unanimité de la critique en proposant une promenade apaisée et poétique aux côtés de ce personnage, promenade que vous pourrez mener au CNP Terreau. Je continue avec Ninotchka d'Ernst Lubitsch. Trois agents soviétiques sont envoyés à Paris pour vendre un lot de bijoux confisqués aux aristocrates pendant la Révolution. Un comte, mandaté par la grande duchesse Swana qui compte récupérer ses bijoux de famille, les guide en leur faisant goûter aux joies du capitalisme et au charme de la vie parisienne. C'est alors que l'URSS mandate une envoyée spéciale pour conclure l'affaire, l'austère Ninotchka Yakutchova. C'est l'avant-dernier film de la divine Greta Garbo, et c'est une comédie, signée par le grand Ernst Lubitsch. Vous pourrez donc voir ça à l'Institut Lumière ces jours-ci. Je termine avec La jeune fille sans main de Sébastien Lodenbach. Le diable propose à un meunier pauvre et épuisé de faire sa fortune s'il lui donne ce qui se trouve derrière son moulin. Le paysan n'y voit pas malice et accepte, mais sa jeune fille est là, à l'arrière du bâtiment. L'enfant ayant pleuré des larmes d'un chagrin pur sur ses mains, le diable ordonne qu'on les lui coupe. Mais elle parvient à s'échapper, errant dans la campagne, allant de rencontres fantastiques en aventures romantiques. La critique ne manque pas de superlatifs pour ce film d'animation inspiré d'un conte des frères Grimm, au dessin splendide, dont vous pourrez avoir un aperçu sur sa magnifique bande-annonce que je vous conseille d'aller regarder, et puis vous pourrez voir le film en entier au CNP Bellecour. Voilà, d'étoiles plein les yeux, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci à Alice pour sa participation à l'émission, et nous vous retrouvons a priori la semaine prochaine pour un numéro consacré à Baccalauréat.